Bien. Mesdames, messieurs, merci de votre présence. Nous avons donc, lors de la dernière leçon, fait ce qu'il nous était possible de faire pour tenter de cerner le groupe humain qui est mentionné une fois dans chaque gatha. Nous allons maintenant le laisser à son sort, mais pas entièrement. Pas entièrement parce que il me reste à faire une ultime remarque. Et comme vous verrez, c'est peut-être la remarque qui va nous permettre de continuer notre investigation dans les gathas. Deux mots par ailleurs problématiques, et je vais en dire un mot, sont mentionnés, semble-t-il, en rapport exclusif avec l'énumération des noms propres. Ces deux mots, ce sont d'une part le mot « maga », je donnerai quelques explications immédiatement, mais nous allons… et le mot « ya », de même. Bon, où les trouvons-nous? Eh bien, reprenons, si vous voulez bien, les textes témoins de l'énumération des noms propres. Nous trouvons le mot « maga » dans le Yasna 46-14, où est mentionné Zarathustra en tête du groupe. Vous trouverez dans le deuxième vers, premier hémistiche, « mazoi magai », le grand maga. C'est un terme qui porte d'ordinaire l'adjectif « grand », qui pourtant est problématique en vieil avestique. L'usage que l'on fait du mot « grand » en avestique, c'est une parenthèse qui ne manque pas d'intérêt. Dans l'Avesta récent, oui, les dieux sont grands, mais les dieux ne sont jamais grands en vieil avestique. C'est un mot qui ne semble pas en faveur. La seule fois que l'on voit apparaître l'adjectif « grand » ou « le plus grand », c'est à propos de Maga et de Ya. Donc, Maga, en 46-14, nous trouvons aussi dans le même texte, nous trouvons dans la même strophe le mot « ya ». Voilà le kavi vishtaspa yahi, locatif singulier. Le voilà au moment du « ya ». Donc les deux termes apparaissent dans la même strophe. On trouvera dans deux strophes voisines de l'énumération des noms propres, « maga » dans le Yasna 51-11, donc qui est apparu haut, pour le maga de la bonne pensée, qui est donc dans la strophe consacrée à Zarathustra. Strophe 51-16, à propos de Vishtaspa, le kavi Vishtaspa parvient par les chemins de la bonne pensée à cause de son pouvoir sur le maga. Deux termes. Alors, le maga apparaîtra encore dans l'Yasna 53-7, mais c'est avec une subtilité qui n'est pas, nous l'avons commenté l'an dernier, c'est avec une subtilité, et je ne m'étendrai pas sur cette question. Quant au Moïa, on le trouvera donc dans l'Yasna 46-14, nous venons de le voir, et puis dans l'énumération des noms propres de la Gata Spenta Mainyu, vous le trouvez effectivement dans l'Yasna 49-9, donc au moment du Ya, les Jamaspa ont attelé leur Daina, l'équipage d'achat pour aller gagner le prix de victoire. Alors, le mot n'apparaît pas dans le Yasna 51 et il n'apparaît pas dans le Yasna 53. Une remarque intéressante et qui va nous relancer notre analyse, c'est celle-ci. Remarquez, je vous ai parlé de toutes les gathas, sauf d'une, c'est la gatha Hunavaiti. Or, dans la gatha Hunavaiti, c'est la seule gatha où les deux mots ne sont pas intégrés, en apparence du moins, à l'énumération des noms propres. Dans le Yasna 28, dans ces quelques strophes qui mentionnent Zarathustra, Vishtaspa, Frashaustra, eh bien, on ne trouve pas ces deux mots-là. On les trouve plus tard. Dans le Yasna 29-11, nous trouvons le mot « maga ». Il est grand, à nouveau, hein. « Reconnaissez-moi », ce qui semble vouloir dire « agréez-moi », hein, c'est l'agréation de la fonction sacrificielle par la divinité. C'est un verbe d'ailleurs, c'est un apax, c'est la seule fois que l'on trouve ce verbe en vieil avestique. « Reconnaissez-moi comme destinataire du grand maga », hein, pour le grand maga. Et le terme « ya », lui, se trouve deux strophes plus loin. Deux strophes plus loin. Le Yasna 32, c'est une autre haïti, mais c'est dans la deuxième strophe où l'on trouve dans le dernier vers un complément de temps avant le grand « ya ». Voilà, donc, les deux mots apparaissent, ils sont attestés une fois, comme dans chaque gata, mais ils ne sont pas intégrés à l'énumération des noms propres, ils viennent un peu plus tard. Maintenant, on peut se poser la question, nous savons bien, qu'est-ce qui se trouve, quel texte, que se passe-t-il dans le texte entre l'énumération des noms propres et la mention du maga et du ya? Eh bien, vous connaissez bien ce texte, je vous l'ai commenté l'an dernier, c'est ce dialogue avec l'âme de la vache. C'est le texte, le Yasna 29, que l'on appelle « Plainte de l'âme de la vache » et le mot « maga » dans la dernière strophe apparaît alors que le dialogue est terminé. Les dernières interventions, les dernières prises de parole dans cette petite histoire, dont on ne connaît pas très bien la nature, cela est terminé, l'histoire est terminée et le cursus rituel reprend. Et alors, il est très facile, je veux dire, ça me paraît aller de soi, qu'indiquent ces deux attestations de Maga et de Ya? Eh bien, évidemment, c'est une sorte de raccord, c'est englobant. Ça intègre au processus que représente l'énumération des noms propres la petite histoire de la plainte de l'âme de la vache sur laquelle nous allons revenir. Mais d'abord, quelques petites remarques pour... sur la problématique des deux mots. Je ne peux pas utiliser ces deux mots comme tels immédiatement. Nous pourrons peut-être faire des hypothèses, pour plusieurs raisons. C'est le cas étrange, qui d'ailleurs troublait beaucoup Mary Boyce, la grande historienne anglaise du zoroastrisme, parce qu'elle avait comme principe directeur l'idée d'une tradition extrêmement fidèle qui conservait à travers l'histoire le souvenir même des plus anciens concepts. Or, ces deux mots sont le démenti le plus flagrant. Ce sont deux mots morts après la période vieille avestique. Maga, on ne le rencontrera plus dans l'Avesta récent, c'est fini. Les commentateurs Pelvi, les traducteurs Pelvi, ne traduisent pas le mot, ils le calquent. C'est-à-dire qu'ils reprennent les mots et lui donnent une apparence moyen-perse. Ça signifie qu'ils ne le comprennent plus. Magué, simplement avec la terminaison, n'est-ce pas ? C'est une manipulation d'adaptation. Ensuite, il y a l'autre manière d'aborder les choses, pour nous, l'autre voie d'accès au texte, non pas la tradition, mais c'est l'étymologie. Eh bien, les vicieilles au départ. Les vicieilles parce que, on a vécu sur le principe, sur l'indice d'une étymologie fausse. Par un verbe qui est en indien « manch » et qui signifie « accorder ».« Accorder ». Alors, on a traduit généralement par « bienfait », parce que ceci, c'est « donner quelque chose »,« accorder ». Mais nous savons désormais que les deux mots ne correspondent pas phonétiquement. Dans « mam », nous avons en finale de la racine une consonne, une occlusive palatale, tandis que « maga » suppose une occlusive vélaire. Il n'y a donc aucun rapport entre la racine « manch » et le mot « maga ». Donc le mot « bienfait » se dissipe. Ce sens-là se dissipe parce que l'étymologie est fausse. Elle est mal remplacée. Dès qu'elle s'est avérée fausse, parce qu'on a trouvé la forme iranienne de la racine, on a essayé de lui donner une autre étymologie, mais elle ne semble pas opératoire dans les contextes dont nous disposons. Vous trouverez cette étymologie dans l'étymologisches Wörterbuch de Meyerhofer sur l'indien, sur le mot maga, l'équivalent indien. C'est en faire quelque chose qui serait apparenté, la forme indienne est maga, qui serait apparenté à l'allemand Macht, le pouvoir. Ce serait la force, le pouvoir, mais pour nous, ça ne nous éclaire pas. Vous pouvez essayer vous-même, essayer d'introduire dans ce contexte le mot « pouvoir ». Vous verrez que ça ne donne pas grand-chose et que l'on ne comprend pas très bien. Le mot « ya », il en va de même. Mais la situation est un peu plus favorable. D'abord, le mot existe encore dans l'avestique récent, dans un composé. Les fravachis, par exemple, dont nous avons parlé ensemble il y a deux ou trois ans, elles sont « yaskurut », elles font le « ya ». elles sont faiseuses de ya. Ça ne nous avance pas beaucoup parce que le contexte ne va pas plus loin. C'est une qualité qu'on attribue aux divinités et on ne peut pas pousser les choses plus loin. Alors, il y a ici l'étymologie, elle est difficile par ambiguïté. Il y a deux racines ya, il existe deux racines ya qui sont utilisables. Une signifie demander, nous en parlons, parce que le IAS 28 est un yana, une demande, nous en avons parlé déjà. Et l'autre, c'est la racine qui signifie aller, mais aller en véhicule. Hein. Ce n'est pas y aller à pied, hein, c'est la racine aller en véhicule. Alors, on a pu tenter des solutions, aller, hein, on pourrait remarquer, hein, par exemple, Yasna 44.9, ça paraît bien convenir, n'est-ce pas, le 49.9, pardon, excusez-moi, puisqu'il est question d'attelage dans ce contexte, hein, on voit bien que les Jamaspa attellent l'équipage d'achat, leur Daina de l'équipage d'achat, lors du Ya, ça signifie lors d'un voyage quelconque. Ça paraît convenir au contexte, ça c'est la première solution. Alors il y a la deuxième solution, bien sûr, celle de la demande, ça pourrait être la grande demande. Mais qu'est-ce que la grande demande? Alors il nous faut à nouveau interpréter le texte plus en profondeur. Voilà la problématique des deux mots. Mais un indice tout de même beaucoup plus sérieux, nous le possédons pour Ya, c'est le Yasna Haptankhaiti. Le Yasna Haptankhaiti mentionne le mot Ya dans la deuxième période, ce ne sont plus des strophes, le Yasna Haptankhaiti est en prose, c'est de la prose comme les Brahmanas, donc nous parlons de période, et la deuxième période du Yasna Haptankhaiti, deuxième période du deuxième chapitre. Souvenez-vous de la structure du Yasna Haptankhaiti, nous allons l'utiliser maintenant, parce qu'il va nous concerner directement pendant cette leçon. Le Yasna Haptankhaiti, sacrifice en 7 chapitres, et on peut discuter sur le nombre de chapitres, ça a été fait, ce n'est pas cela qui nous retient, mais on discerne bien qu'il y a dans les 7 chapitres du Yasna Haptankhaiti 3 parties. C'est une sorte de triptyque du point de vue conceptuel. Le centre, le Yasna 37, 38 et 39, les trois chapitres centraux constituent très clairement ce qu'on appelle un yasna. Le texte se définit lui-même comme ça. Et c'est ce yasna central qui donne son nom à l'ensemble, non, le sacrifice en 7 chapitres. C'est un texte en yasamaïdé, nous sacrifions. Bon. Ensuite, les deux chapitres finaux, c'est un ensemble de louanges et de demandes qui se présente lui-même comme un varma, c'est-à-dire une prière qui combine éloge et demande, un varma. Ce n'est pas ce qui donne son nom au texte tout entier. Bon, ça, ce sont les deux parties. Mais au début, il y a deux chapitres. Deux chapitres qui semblent introduire au yasna et qui introduisent de manière différente. Pour ça qu'on ne peut pas parler de préliminaire, parce que ce préliminaire, ce préambule au sacrifice, il n'est pas homogène. Il est composé de deux chapitres extrêmement différents par leur objet. Le premier chapitre du Yasna Haptankhaiti, c'est une sorte de discours sur l'acte, Shautana. Hein, donc le troisième niveau du comportement après la pensée et la parole. Chapitre consacré à l'acte, il y a une sorte de dissertation. Et le deuxième chapitre, c'est autre chose. Il est question du feu. Il est question du feu rituel. Et c'est un texte avestique extrêmement important parce que, nous l'avons déjà commenté ensemble, il a été remarquablement interprété par Johann Darten dans son livre sur le Yasna Haptankhaiti en 1985, qui a montré que ce qui était en cours comme opération dans ce deuxième chapitre, c'était l'opération de sacralisation du feu, qu'elle assimilait à ce qu'on appelle en théologie chrétienne la transsubstantiation. Parce que c'est l'endroit où le feu banal que l'on vient d'allumer, hein, qui se trouve sur l'autel, à la suite des paroles cultuelles, se transforme en forme visible des dieux. Je sais que devant vous, il y a un an, Antonio Panaino a critiqué le terme de transsubstantiation parce qu'il n'y avait pas changement de substance. Le feu restait le feu, même si on voyait autre chose. Je ne veux pas, ergoter, je ne me sens pas l'envie de parler de ce genre de choses. Nartène a employé transsubstantiation, vous voyez bien ce qu'on veut dire. N'est-ce pas ? C'est la sacralisation du feu afin qu'il puisse, à un moment donné, recevoir l'offrande. C'est un préalable. C'est un préalable. Hein. Nous verrons que ça n'a pas. On ne peut pas commencer le sacrifice sans cela. Alors, voilà donc pour commenter ces deux. Donc, le Yastin 36.2, nous y reviendrons plus en détail. Il est parmi les textes qui vous sont montrés. Le Yasna Haptankaiti est donné avec la traduction des textes de vieille avestique parce que il n'est pas nécessaire que je la refasse parce que la traduction du Yasna Haptankaiti, d'une certaine façon, est moins problématique pour un traducteur que celle des Gata. Alors. Nous allons en revenir, si vous le permettez, un moment, un bref instant. Nous allons en revenir à la plainte de l'âme de la vache. Je l'ai commenté avec vous, je le sais bien, l'an dernier. Je vais y revenir, parce qu'il y a peut-être des choses nouvelles à dire qui vont nous permettre de continuer. Depuis, non pas les textes vieille avestique où nous ne savions pas très bien à quoi nous en tenir, ça nous paraissait un texte difficile, et nous nous étions surtout focalisés, Pirard et moi, sur le fait qu'il était extrêmement difficile de dénouer les fluctuations du dialogue. Qui parle, qui ne parle pas. Sauf lorsqu'il y a un verbe déclaratif explicite, il est très difficile de savoir qui sont les interlocuteurs. Ce n'est pas une situation normale. Ce n'est pas une situation normale dans la mesure où les hymnes dialogués du Rig Veda présentent en général la même difficulté. Il y a aussi une littérature très abondante sur savoir qui parle ou qui répond hein, dans les hymnes dialogués du Rig Veda. Cette obscurité tient sans doute au caractère oral de la littérature. Et ce n'est pas une situation qui doit nous inquiéter. Elle est dans une certaine mesure assez normale, même si elle est gênante. Alors, depuis, au fond, la fin de notre travail, à partir de 1991, au colloque de Bamberg, les actes sont parus 4 ans plus tard, en 1995, j'ai tenté une lecture qui n'était plus essentiellement focalisée sur les interlocuteurs, mais qui tentait de donner une explication sur ce qui était en train de se passer dans cette plainte de l'âme de la vache, dans ces 9 strophes, qui sont les premières, la plus grande partie du Yasna 29. Et mon interprétation a été, c'est la première fois que j'ai formulé cette hypothèse que je défends devant vous de façon systématique, et qui est celle de l'antiphrase lorsque l'on parle du sacrifice sanglant. Il intervient dans ce Yasna 29 un personnage qui s'appelle Gaushtashan, ce qui signifie le menuisier de la vache, celui qui a créé la vache en la taillant comme un menuisier taille le bois. C'est le verbe de la menuiserie, tâche. Qui est ce Gaushtashan ? Alors que l'auteur de la menuiserie de la vache, le véritable menuisier archétypique de la vache, est Ahura Mazda. Il semble y avoir un double emploi. Pourquoi, à côté d'Ahura Mazda, y a-t-il encore un dieu qui, lui, est le menuisier de la vache, alors quand dans ce même texte, Yasna 29, Ahura Mazda déclare de manière officielle « c'est moi qui t'ai taillé à la vache ». Alors, qui est Gaushtashan ? Alors, j'avais fait l'hypothèse d'une sorte de transfiguration d'une fonction liturgique. Celui qui est chargé d'immoler la vache, de la tuer, puis de la débiter. Et alors vient une opération qui reproduit en quelque sorte la création de la vache. C'est, comme on le voit sur certains bas-reliefs, n'est-ce pas, c'est reconstituer les pièces pour en faire une sorte d'animal entier hein, sur la litière végétale devant le feu. Alors, ce serait la divinisation d'une fonction liturgique, ce qui n'est pas... Ça avait été mon hypothèse à l'époque. Je vous prie, pour l'instant, je vous la rappelle, ce n'est pas cela qui va surtout me retenir ici. Ce sont deux autres faits. Ce sont c'est le fait de savoir de quoi se plaint exactement la vache. Et si on parle de plainte de l'âme de la vache, de quoi se plaint-elle exactement ? Accessoirement, nous répondrons à cette question, nous tenterons une réponse. Et puis, pourquoi ce passage vient-il interrompre l'appel, ce que j'appelle l'énumération des noms propres, elle est terminée, me direz-vous, mais tout de même, le mot maga et le mot yas font encore attendre. Et puis, il faudra voir comment cette plainte se termine, quelle sera la dernière intervention dans la strophe 9 de l'âme de la vache. Je vous rappelle quelques petits faits. D'abord, ce n'est pas un mythe, comme vous pourrez le lire. Depuis Humbart, en 1959, nous savons qu'on ne raconte pas un mythe ici. Ce n'est pas une histoire qui s'est déroulée dans le passé. Le texte est rédigé au présent. Gurjda, c'est toujours la difficulté des formes verbales, vieille avestique, bien sûr, mais c'est un injonctif présent. L'injonctif présent n'est pas essentiellement un temps du passé. Hein. Il est abusif de traduire cela, l'âme de la vache s'est plainte à vous, comme s'il s'agissait d'une vieille histoire, non. C'est quelque chose qui se passe maintenant, dans le cursus rituel. L'âme de la vache prend la parole. Alors, elle se plaint, elle dit « Pour qui m'avez-vous charpenté ? Qui m'a taillé ?» Je vous fais remarquer que c'est là que je voyais une des premières marques de l'antiphrase, parce que si vous prenez les choses normalement, vous apercevrez que la première question répond à la deuxième. Hein ? Première question répond à la deuxième. Cette rupture dans la logique de l'interrogation, qu'on retrouve d'ailleurs ailleurs dans les Gathas, on trouve des questions dans l'Yasna 44, cosmogoniques adressées à Wamazda, où elles se répondent les unes aux autres. Hein. Il y a des ruptures logiques qui sont signifiantes, et ça me paraissait être un des signes révélateurs de l'antiphrase. « Toi, rouge d'oum, vous », s'adressant au Dieu, tandis que « qui m'a taillé ?» La question du « qui » était adressée à Gevshtachan en tant que prêtre sacrifiant. Bon. C'était donc le fondement de mon interprétation par l'antiphrase. Alors, elle se plaint d'être immobilisée, rage et domination, entrave, lien et coup me tiennent ligotés, puisque je n'ai d'autre pâtre que vous. Donnez-moi satisfaction en faisant bien votre travail de pâtre. La deuxième strophe est très difficile parce que les deux premiers vers, on ne sait pas qui parle. C'est la première fois que, apparemment, excusez-moi, la deuxième strophe, je passe trop vite. La deuxième strophe est, elle, au contraire, très claire au point de vue de la prise de parole. C'est le charpentier de la vache, le menuisier de la vache, qui relaie la plainte et l'interrogation de la vache et qui le fait avec une certaine technicité, puisqu'il s'adresse à Chat, à l'agencement, et lui dit « Quel est ton ratou pour la vache ? Comment est ton ratou pour la vache ?» Ça, c'est autre chose qu'une plainte, c'est dire « Bon, il faut voir quelles sont les dispositions officielles. » N'oubliez pas, le sens du mot ratou, c'est essentiel. Hein, c'est un moment du temps. Hein. Or, le cursus sacrificiel est une succession de ratou, succession de moments sacrificiels. Le yasna 1, c'est l'avesta récent, je sais, mais il est essentiellement fondé sur cette idée, n'est-ce pas ? C'est qu'il y a un cursus composé de moments, d'articulation du temps, qui s'appelle les ratou. Alors, retenons ce sens pour ratou. Quel est ton ratou pour la vache ? Et alors, il lui faudrait aussi un aoura. Hein, c'est le sens de un aoura, c'est-à-dire, c'est le même titre que celui que porte Awa Mazda, mais il conviendrait que cet aoura, quelqu'un qui soit assez fort pour éliminer les forces du mal qui tiennent la vache immobilisée. Alors, on ne voit pas clairement que l'agencement répond. Il n'est pas possible qu'il prononce la strophe 3. On l'a fait, je vous mets en garde contre de vieilles traductions. On l'a fait car l'idée grammaticale, une idée grammaticale qui était courante, je vais dire, jusqu'à Humbach, était que l'instrumental pouvait être un substitut du nominatif ou du vocatif. Dès lors, le fait qu'Acha, dans ce premier vers, figure à l'instrumental, nous paraît désormais interdire que ce soit lui qui parle, mais pour les interprétations anciennes, on lui donnait une valeur de nominatif, et l'on pouvait traduire « Acha répond, dit ». Ça ne va pas non plus, ça coince aussi, parce que, étrangement, Paitim Ravat, si nous en faisons une forme verbale, nous devons la traduire par un futur. C'est quand même étrange. La vache se plaint, Gevshtachan interroge, et puis Acha répondra. Pourquoi ce futur? Alors, je vous ai mis entre crochets, non pas une traduction, mais une sorte d'approximation du sens général, tel que ça apparaît. C'est-à-dire, il ne faut pas faire des réponses qui n'en sont pas. On ne peut pas répondre des choses comme ça qui ne veulent rien dire, du genre « il y a quelqu'un qui n'a pas d'hostilité pour la vache » ou « on ne peut pas savoir en fonction de quoi ceux d'en haut nous dirigent ». Et Gevshtachan décide donc d'interroger Mazda. Alors remarquez, remarquer le début de la strophe 5, je permets d'insister parce que nous allons retrouver cette notion. Afin que Mazda parle, on va le propitier. C'est le verbe qui est utilisé, fridomna, au participe. Dans quelle position? Eh bien, les mains tendues. Nous sommes les mains tendues. Ustanaïch, zastaïch. Avec les mains tendues. Cette expression, les mains tendues, c'est la position typique de Laurent. Laurent, c'est le mouvement des mains qui se tend vers la divinité. C'est l'équivalent d'uttanahasta dans les textes védiques. C'est donc une notion tout à fait indo-iranienne. Or, nous ne la trouvons pas fréquemment dans les gathas. Elle est là. Elle est là en composé dans la toute première strophe des gathas, le Yasna 28.1. Lorsque le récitant prend la parole, lorsque commence la récitation des gathas dans toute la première strophe, afin de demander quelque chose aux divinités, il le fait dans cette position, les mains tendues. Donc, le signal envoyé aux dieux, à partir du Yasna 28.1 jusqu'ici, ce sont les mains tendues des sacrifiants, les mains tendues. Retenons cela pour la suite, si vous voulez bien. Alors, suite à cette demande, formulé dans cette attitude, qui est celle de la demande, Ahura Mazda va répondre. Et alors, dans sa réponse de la strophe 6, il y a ce deuxième vers, qui est un vers à quel on a toujours accordé énormément d'importance dans toute la tradition avestique, au point d'en faire un texte à lui tout seul. Lorsqu'on énumère dans le Visprat, les composantes de l'Avesta ancien, c'est remarquable. C'est grâce à ce texte que nous savons que l'Avesta ancien est très exactement pour l'auteur du Visprat de l'Avesta récent ce qu'il est pour nous. Donc que le texte est figé, qu'il est figé dans le même ordre que celui dont nous disposons. Eh bien, il n'y a qu'une chose qui change, c'est qu'entre la première et la deuxième gatha, il insère un texte qu'il appelle Ahumantratumant. Ce qui veut dire exactement le texte qui contient le mot « ahu » et qui contient le mot « ratu ». Et il y a toute apparence que par cette expression, il désigne ce seul vers-ci, comme si ce seul vers-ci avait à lui tout seul le poids d'un texte entier. Alors, je ne vais pas vous en faire pour l'instant le commentaire. Parce qu'il y a une difficulté lexicale majeure pour nous, pour l'instant. J'espère le résoudre avant la fin de ce cycle de cours. C'est le mot « ahu », état d'existence, utilisé ici à l'instrumental. Attention, avec un adjectif passé passif. Il ne peut pas être l'agent. Un verbe moyen, son agent, est à l'instrumental. Mais un adjectif passé passif, il est au génitif. Donc, il n'est pas question d'en faire l'agent. C'est le moyen de l'action. On n'a pas trouvé. Il n'a pas été trouvé par là où, par un seul état. Ça paraît très sibyllin. Je ne vais pas donner l'interprétation maintenant parce que ça demandera une enquête sur les rapports entre le mot ratou, ahou et d'autres mots. Mais voyez bien que si on n'a pas trouvé quelque chose qui doit être elliptiquement un ahoura, hein, signalé, on n'a pas trouvé non plus dans la deuxième partie du vers de ratou. Ah, voilà la réponse d'Ahura Mazda, elle est extrêmement négative à la première question de la strophe 2 de Gavsh Tachan. Comment est-on ratou pour la Aasha? Eh bien, Ahura Mazda répond, on n'en a pas trouvé. Je t'ai fait donc je t'ai façonné pour l'éleveur et pour le pâtre. Bien, alors là, semble-t-il, le discours d'Ahura Mazda, strophe 7, est interrompu. Nous dit qu'Ahura Mazda a donc taillé pour la vache. Comme il a taillé la vache, il a aussi taillé le mantra de son utilisation, le mantra de la libation et celui du lait. Alors, quelqu'un reprend la parole, qui probablement est Gavsh Tachan, et lui demande, oui, mais qui as-tu? J'ai traduit littéralement, je sais que ça ne veut pas dire grand-chose, mais je ne veux pas, je veux pas forcer le sens du vers, n'est-ce pas? La question de Gavsh Tachan, c'est qui as-tu avec bonne pensée? Donc, qui as-tu qui est doué de bonne pensée et qui va pouvoir transmettre cette formule aux hommes? Et quelqu'un répond, il semble-t-il, c'est Gavsh Tachan, c'est lui qui semble poser la question de l'astrophe 7. C'est Mazda, qui semble poser la question du dernier vers de l'astrophe 7. Et maintenant, Gavsh Tachan va répondre, il va dire, voici, ici, j'ai trouvé Spitama Zarathustra, qui seul a entendu nos leçons. Et le reste est un peu plus obscur, mais on voit bien que ça veut dire qu'il veut, par ses textes, s'attirer la faveur des divinités. Il souhaite, au Mazda et à Chancement, nous faire savoir par un chant de célébration. Charkurtra, c'est un apax. Charkurtra, c'est un chant, effectivement, de louange, et qui consiste plutôt en une commémoration. C'est rappeler les exploits passés de quelqu'un. C'est la seule fois, c'est un mot qui n'est pas fréquent. Peut-être parce que, justement, la commémoration n'est pas un genre fréquent dans les textes avestiques, contrairement aux textes védiques. Et il souhaite faire entendre par ce chant que je puis traire, on revient assez subtilement sur le vocabulaire bovin, hein, je puis traire le sucre de sa bouche. C'est une façon évidemment aussi de louer la qualité des chants. Oui, et alors voici la dernière strophe. La vache n'est pas contente. C'est ceci qui est très important. La vache n'est pas contente. Ça ne lui paraît pas suffisant. Pourtant, le dialogue va se clôturer avec cette ultime intervention. Il semble que ce dialogue ait été parfaitement inutile. Parfaitement inutile, parce que la vache n'a pas obtenu satisfaction. Alors, l'âme de la vache poursuit pourtant sa lamentation, hein, se plaint quand même. Et il faudrait, dit-elle, que je me contente de la voix incapable d'un homme sans force, alors que je veux qu'il ait du pouvoir grâce à la puissance Ish. Sera-t-il jamais là celui qui lui accordera la faveur de ses mains? Là, j'ai quand même traduit de façon relativement élégante, parce que si j'avais traduit de façon littérale, il faudrait dû traduire la faveur pourvue de mains. Qui lui accordera la faveur pourvue de mains? C'est très exactement ça qui est dit. Bien, alors revoici nos mains. Revoici nos mains. Après les mains tendues des sacrifiants, voici une autre main. Nous allons utiliser ça. Je pense que je vous rappellerai toutefois un premier point raccord avec ce qui a précédé, avec l'énumération des noms propres dans l'Iasna 28. C'est la place de la puissance Ish. N'oubliez pas, c'est un des deux éléments qui font l'objet de la demande. Il y a d'abord le secours, les dérivés de la racine rap, venir secourir quelqu'un. C'est cela qu'on demande aux divinités. Viens nous secourir, aide-nous. Donc, ce qu'exprime la racine rap. L'autre chose, c'est la puissance Ish, qui semble comme une puissance qui va introduire à la puissance Sava. à la puissance du gonflement, hein, du gonflement de la lumière aurorale. Donc il y a, alors voilà, est-ce que c'est, moi je souhaiterais, dit la vache, que la force Ige que l'on vous a demandé, hein, dans le premier chapitre, dans l'énumération des noms propres, elle rende ce monsieur non pas impuissant, incapable, mais qu'elle le rende pourvu de kshatra, hein, pourvu de pouvoir. Qu'il soit quelqu'un qui ait du pouvoir sur le cours des choses. Et alors, pour sa question, est-ce qu'il y aura jamais quelqu'un qui pourra l'aider de ses mains, hein, qui pourra l'aider de ses mains. Comprenez bien que la plainte de l'âme de la vache, et qui se termine comme ceci, il y a une interprétation tentante, et je vais dire un peu terre à terre, mais m'a toujours paru extrêmement naïve. C'est, voyez bien ce qu'on va pouvoir dire, interdiction du sacrifice sanglant. On se plaint des mauvais traitements que la vache subit quand on la sacrifie. Surtout si on imagine qu'on raconte ici un petit mythe. Et puis, cette plainte se termine comme ça sur quelque chose de curieux, comme une plainte peut-être de Zarathoustra lui-même qui se plaint de son manque de force, de son manque de pouvoir, et puis un appel à l'aide. On voit bien qu'on semble, il est tentant de considérer qu'il y a ici un appel, hein, bah, je dirais à ce qu'on a appelé plus tard le bras séculier, à quelqu'un de puissant, effectivement, qui puisse favoriser la doctrine du prophète. Hein. C'est la raison pour laquelle, très souvent, on a considéré que ce chapitre, hein, dans le cadre de la conception où ils sont tous indépendants, était peut-être le tout premier poème de l'ensemble, le tout premier poème du prophète Zarathoustra, où on trouverait effectivement une condamnation des anciennes pratiques sacrificielles et puis un appel au pouvoir temporel représenté par le Kavi Vishtaspa. C'est encore la position aujourd'hui de Martin Schwartz, par exemple. Mais bon, le Yasna 29 est le premier texte gathique. Hein. Je crois que ceci, c'est pas ma conception. Alors, on peut se poser la question dans ce cadre-ci, au fond, que s'est-il passé? Quel est le sens de cette plainte de l'âme de la vache? Je pense que la réponse se trouve dans le mot ratu. C'est le mot qui rend compte avec technicité de la situation de ce texte, n'est-ce pas? Gevstachan demande dans la deuxième strophe comment est-on ratou? Comment est-on ratou pour la vache? Acha, car c'est Acha parmi les entités qui est dépositaire du ratou. C'est lui qui en est responsable, c'est lui qui les donne. Et alors, la réponse d'Ahura Mazda qui va venir, il n'y en a pas. On n'en a pas trouvé, n'est-ce pas? Et alors, il va falloir emprunter un chemin plus long pour arriver à un ratou. Je pense que ce qui se trouve ici, je reviens à l'hypothèse de l'antiphrase, c'est toujours mon hypothèse, mais dans un cadre un peu moins rigide et avec une précision. Moins rigide, je ne sais pas si Gevstachan est une divinité ou bien la transfiguration d'un office sacrificiel. Je ne sais pas, je ne veux plus décider de cela. Je ne saurais pas en décider parce que Gevstachan n'est mentionné que deux fois dans les Gathas. Il est mentionné dans l'Yasna Haptankaiti, mais de manière extra-contextuelle, dans une énumération. Donc, on ne peut pas se prononcer. Mais ce que je vois peut-être, ce n'est pas la vache qui parle, c'est son âme. C'est son âme. Alors, je pense que ce qui gît dans le mot ratu, ce que recouvre ce mot ratou ici, c'est le ratou pour la vache. Hein? Kata, gavoy, ratouche, demande. Quel est le ratou pour la vache? Quel est le moment rituel pour la vache? Eh bien, je crois que ce que cette plainte exprime, c'est ce qu'on a appelé, je pense, dans théologie chrétienne, la sainte impatience. La sainte impatience, au fond, des martyrs. En théologie chrétienne, c'était cela, c'est-à-dire l'aspiration à mourir. La vache se plaint, elle est impatiente que vienne le moment sacrificiel de l'immolation et de l'offrande qui va envoyer son âme chez les dieux. Ça ne peut pas se faire pour l'instant. C'est une chose qui... L'immolation a peut-être été faite. Il ne faut pas... L'immolation a peut-être été faite. Mais la... l'offrande n'a pas été faite. Alors, c'est peut-être un moment interstitiel entre l'immolation, qui correspond peut-être à la première mention de Shyautana dans le Yasna 28.1. Mais si l'immolation a eu lieu, l'âme reste immobilisée parce qu'on ne peut pas... on ne peut pas l'offrir aux dieux pour une raison ou une autre. On ne peut pas l'offrir aux dieux. Alors, il faut quelque chose, que quelque chose se passe, n'est-ce pas ? Il faut répondre à la seconde et ultime plainte. Quand sera-t-il jamais là celui qui lui offrira l'aide de ses mains ? Alors, après avoir répondu à la question « Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé dans ce texte ?», nous allons répondre maintenant... à la question « Que se passe-t-il maintenant dans ce texte ?» Que se passe-t-il ? Et pourquoi a-t-on interrompu le cursus rituel par ce qui paraît finalement une anecdote, qui n'en est pas une ? C'est le cursus rituel lui-même qui est en cause. Alors, si vous le permettez, nous allons examiner, pour rendre compte de cela, nous allons examiner le Yasna 34.4. C'est le moment sacrificiel. C'est le passage que nous avons, longuement commenté pour tenter de répondre à ces questions lors de la lors des cours de l'an dernier. Alors, le Yasna 34.4 correspond au moment justement de l'offrande carnée dans le feu. C'est le moment où on dépose un morceau de chair ou un morceau de graisse animale dans le feu. C'est l'épicentre exact de l'offrande carnée. Dans le dernier chapitre de la gatha, de la même gatha, alors, la demande que l'on fait au feu à ce moment-ci, la voici. À toi, nous voulons ô Ahura, que ton feu, toi atrum, je préfère le traduire qu'avoir donné la traduction, nous voulons qu'il soit, pour celui qui lui apporte le secours, une aide claire, couleur des flammes, avar. Oui, Yasna 29, avo, l'aide, avo, c'est le même mot. Mais qu'il soit pour celui qui lui nuit, c'est l'antonyme de Rapante, un tort visible, d'Urshta Ainankum. Et comment va-t-il porter ce tort, le feu ? Eh bien, nous trouvons l'instrumental Zasta Ishtai, le nom des mains. Ce qu'on envoie avec les mains, les projectiles de tes mains, par les projectiles de ses mains. Il va faire de tort par les projectiles de ses mains. Oui, le possesseur de mains par excellence dans le système des métaphores indo-iraniennes, c'est le feu. Le feu a des mains, ce sont ses flammes, bien sûr, qui sont assimilées et désignées par le nom des mains. Bien, je crois que ce que nous avons avec cette contiguïté dans le Yasna 29.9, entre le nom de l'être, avar, le thème est apposé sous cette forme-ci. Nous trouvons, et puis Zasta, la main, l'aide pourvue de main, Zasta. Donc c'est l'aide que le feu peut apporter avec ses flammes. Évidemment, on ne peut pas faire l'offrande. On ne peut pas faire l'offrande de graisse si le feu n'est pas présent. On ne peut pas faire l'offrande si le feu n'est pas présent. C'est la condition absolue pour que les choses bougent et pour que la vache qui a peut-être déjà été immolée soit libérée, que son âme puisse gagner le monde divin. Il faut que le feu soit là. Alors, et si c'était ce qu'on va faire ? J'établis ce raisonnement sur un parallélisme à deux mots, la notion d'aide, ava, et la notion de main. Il y a un troisième point, c'est Rapante. C'est la racine rap, n'est-ce pas? C'est la racine rap. C'est-à-dire cette racine qui occupe massivement, via ses dérivés, le Yasna 28. Hein, c'est ce secours qui occupe le Yasna 28. Or, si nous pouvons peut-être nous rappeler le Yasna 28.2, où nous trouvons aussi un texte qui va nous montrer où l'on... le Yasna 28.2, je vais le tenter de le retrouver, excusez-moi. Je vais regarder avec vous, merci. Merci. Le Yasna 28.2, je le donne avec la traduction que nous pouvons en faire. Un jour, vous aurez la traduction du Yasna 28, mais il faut d'abord que nous cernions bien tous ces articulations avec ce qui suit, n'est-ce pas? Alors, moi qui veux vous servir avec bonne pensée, ô Ahura Mazda, afin que vous me donniez les faveurs agencées des deux états d'existence, celui du corps et celui de la pensée, faveurs par lesquelles il dépose dans le bien-être ceux qui lui offrent secours. Oui, car la notion d'aide est bilatérale. Mais ici, ce sont les officiants qui aident quelqu'un. Ils demandent de l'aide, mais ils aident quelqu'un. Or, qui est-il? Eh bien, le sujet, bien entendu, du verbe d'Aïdit, il. J'ai traduit il, je ne peux pas traduire autre chose. J'ai un verbe à la troisième personne. Je ne trouve pas de nominatif. C'est un de ces nombreux cas d'ellipse. Je vous avais, il y a quelques années, déjà entretenu de la nécessité où nous étions de véritablement aborder de manière beaucoup plus systématique le problème de l'ellipse dans les textes vieil avestiques. Elles ne sont pas... J'ai peut-être dramatisé cette question dans la mesure où j'ai, au début, tenté de montrer tous les cas possibles d'ellipse, de chaque fois qu'il était possible de cerner une ellipse, de la désigner comme telle. Il y a des choses que l'on peut écarter. Il y a des rapports pronominaux que l'on peut élucider facilement. Il y a des objets internes, donc ce qui permet de faire l'ellipse de l'objet. Il y a simplement de répondre par son adjectif. Mais il y a des ellipses réelles. Celle-ci en est une. Le verbe « daidit » n'a pas de sujet exprimé. Nous le traduisons naturellement par « il », parce que le pronom « il », c'est comme en latin ou en grec, il est interne au verbe, si vous voulez. Mais qui est « il » Qui est « il » C'est pour ça que je l'ai fait mettre en gras. C'est pas, je l'ai fait mettre en gras pour attirer votre attention. Alors, je vous ai souvent dit qu'elle était l'artifice, l'expédient, des traducteurs dans des cas comme ceci, c'est très frappant. Lisez toutes les traductions des Gatha, n'importe lesquelles. Lisez celle d'Insler, lisez celle de Duchesne d'Yvain. Insler est en anglais, Duchesne d'Yvain en français, Humbach en allemand. Eh bien, vous verrez le nombre de on. Le nombre de on. Mais ça n'existe pas, on. N'est-ce pas ? Simplement, on met on quand il n'y a pas de sujet exprimé. C'est un véritable catalogue d'ellipses que ce « on » qui parcourt « man » en allemand, « one » en anglais, c'est l'expédient trouvé. Je pense qu'il y a réellement une ellipse. Et dans ce cas-ci, l'ellipse, n'est-ce pas, c'est celle du feu. Alors, on demande donc la capacité à pouvoir, dans ce cas-ci, pouvoir... la capacité de pouvoir aider le feu. Alors, si vous voulez, nous allons prendre les deux strophes du Yasna 29, si vous le voulez bien, qui concluent la Haïti 29. J'ai aussi demandé à Céline Redard de faire figurer en gras les pronoms. C'est pas un est elliptique, l'autre pas. Mais c'est tout de même une expressivité très forte. C'est extrêmement rare. Mais cette strophe commence par deux pronoms toniques. Deux pronoms toniques. C'est une formidable insistance sur les personnes que représentent ces pronoms en indo-iranien ancien. Les initiales doublement tonique par pronom. Alors, vous, à eux, qui est vous, bien simplement, ça, ce sont les dieux, au singulier ou au pluriel, pour Ahura. Ahura peut être singulier, vocatif singulier ou pluriel. Le pronom, lui, est pluriel. À eux, qui est eux, hein, donné par l'agencement et la bonne pensée, l'autorité et le pouvoir qui font qu'il garantit. Il en gras aussi, parce que qui garantit ? Le sujet de garantir, le verbe date qui donne, n'est pas exprimé. C'est un troisième pronom, pronom de deuxième personne, vous, clairement les dieux, eux, troisième personne. Maintenant, un il singulier, sujet du verbe, il garantit de surquartier et la paix. Quant à moi, je suis d'avis ou attentif que c'est toi le premier qui le repère. Ah oui, il y a un pronom aussi qui, cette fois-ci, est l'objet, pour simplifier, hein, de ce que j'ai traduit par un verbe. En réalité, le complément déterminatif d'un nom, mais puisque j'ai choisi de traduire par un verbe, c'est l'objet de ce verbe qui est en cause. Bien. Donc, ça fait beaucoup d'ellipses pour une seule strophe. Ça fait beaucoup d'ellipses. Alors, je vous propose de comprendre aussi qu'eux, ben, ce sont les hommes dont le nom a été mentionné. On revient dans le mouvement de l'évocation d'un groupe humain. On va prononcer les mots maga va apparaître dans la strophe suivante. Le mot ya va apparaître un peu plus loin. Eux, ce sont eux, les sacrifiants ici. Eh bien, donnez-leur l'autorité et le pouvoir. On a demandé cela dans l'Yasna 28, très exactement, l'autorité et le pouvoir qui font qu'il garantit de surquartier et la paix. Là, le il, c'est quelqu'un d'autre. Je fais l'hypothèse qu'il s'agit du feu. Le Yasna 58, qui demande au feu qui vient de cesser sa fonction sacrificielle, qui cesse d'être le feu de la transsubstantiation pour redevenir le feu domestique ou le feu des campements, on lui demande de protéger les campements, de protéger les troupeaux, de protéger les biens que nous possédons. C'est la fonction du feu dans la nuit. Ce n'est pas le feu sacrificiel. Le feu sacrificiel, cette nature-là est terminée. C'est son autre nature, sa nature usuelle, hein, qui, après le sacrifice, réapparaît, n'est-ce pas ? Et c'est à lui qu'on demande la protection, garantit nos biens, nos quartiers, ici, où nous restons, la paix des pâtures, hein, le feu gardien des pâtures et des campements. Et alors, bien sûr, le feu est un signal adressé aux dieux, et c'est ainsi que je comprends le dernier vers. C'est toi, Ahura Mazda, toi, en tant que plus grand des dieux, c'est toi qui repères le signal que nous donnons, hein, avec ce feu, le premier. Tu le repères, le premier. Et nous voyons, alors, dans la dernière strophe, remarquez, le nom du feu n'est toujours pas prononcé. Hein, où sont l'agencement, la bonne pensée et le pouvoir ? Vous, ô Mazda, acceptez-moi d'emblée pour le grand Maga. Au moment de quelque chose qui sait s'orienter. Il y a une ellipse, ça doit être une ellipse formulaire. Je préfère hiérarchiser les ellipses à présent, parce que nous avons trouvé l'ellipse centrale, n'est-ce pas, qui est celle ici du nom du feu. C'est pas un mystère, n'est-ce pas, mais imaginez-vous que nous avons quand même un texte qui est un texte de situation. Un collège sacrificiel qui se trouve en train d'allumer un feu. Il y a quelque chose dans une situation de référence qui tient lieu, bien entendu, du caractère explicite des mots. C'est la deixis, hein. C'est ce qu'on montre, n'est-ce pas ? Ce qu'on montre, ce qui est présent, qui n'est pas nommé, mais qui est présent. Et si ce texte est un texte de situation, un texte de dramaturgie liturgique, hein, le mot peut être remplacé par le geste. Hein, le mot peut être remplacé par le geste. Puis on sait de quoi l'on parle, de toute façon. Nous pas, malheureusement, mais les auditeurs le savent. Et alors, l'ellipse, ça, nous la trouvons, n'est-ce pas ? Nous pouvons la résoudre formulairement. avec cet adjectif qui sait s'orienter, c'est un adjectif fractionné, locatif, donc c'est au moment de quelque chose qui sait s'orienter. Eh bien, le Yasna 33-14 nous enseigne que ce qui sait s'orienter, c'est un dérivé de rap, justement, Rafna, le secours. Ce thème prégnant du Yasna 28 réapparaît dans la dernière strophe du Yasna 29, avec les termes de l'évocation du groupe humain, hein, au moment de donner un secours qui sait s'orienter. Reconnaissez-moi pour le grand Maga. Alors, remarquez bien l'expressivité exclamative du dernier vers, « Ô Ahura, maintenant en bas vers nous. Hein. » C'est donc une phrase nominale, pure, exclamative, hein, « en bas hein. », une sorte d'ordre donné aux divinités, « venez vers nous maintenant, hein. Venez nous rencontrer au vu de notre générosité envers vous. » Nous commenterons plus longuement, vous les avez ici sans traduction, les deux, ou je me trompe peut-être, la traduction est bon, bien. Alors, puisqu'elle est là, ce n'est pas plus mal, mais il faudra revenir sur ces détails. Les deux premières strophes du Yasna 30 manifestent. Hein, bon, d'abord, Avareux, venez vers nous, repris en quelque sorte par Ishanto. Vous qui cherchez à venir, mais oui, les dieux désormais, puisque le feu est allumé, qu'ils peuvent le repérer, qu'ils ont une direction vers où se rendre, eh bien, ils sont non plus les Ahuras, mais on les désigne comme ceux qui cherchent à venir. Ceux qui cherchent à venir, ou vous qui cherchez à venir. Et puis, remarquez le dernier hémistiche, l'agencement achat, dont je me réjouis qu'il soit visible par les lumières. C'est les notations, les expressions de la lumière qui vont s'introduire progressivement dans tout le texte. Et dès lors, vous voyez ici dans la deuxième strophe, qui reprend le discours à l'impératif, hein, « Écoutez, sera au tard. Gauchage, au bruit. » À cause du bruit, grâce au bruit. Et voyez, grâce à la flamme. Sucha, c'est la lumière, mais c'est la flamme. Such, c'est être en flamme. Hein. Et voyez, grâce à la flamme, tout ça avec la meilleure pensée. Alors, un peu énigmatique, ça va nous demander un peu de commentaires, c'est pas pour aujourd'hui. Voyez, entendez et voyez grâce à cette manifestation du feu, le feu qui crépite, qui fait du bruit, et le feu qui, bien sûr, est visible par ses flammes, voyez les invitations, c'est la meilleure, ou les préférences, hein, les préférences, c'est choisir les choix hein, du discernement, de la discrimination. Ah, c'est un peu brachylogique. Cette manie de la rhétorique gathique de s'exprimer en termes abstraits, ce n'est pas les préférences de ceux qui choisissent, non, c'est les préférences du choix, les choix du discernement, pardon. Et alors, avant le grand Ya, c'est notre mot Ya, hein, bien vous, éveillant, vous, hein, écoutez cela, voyez cela, en éveillant chaque homme, un homme après l'autre. Narum, narum, avant le grand Ya, le deuxième terme lié à l'énumération des noms propres, pour que son corps lui apparaisse. Pour que son corps lui apparaisse. Donc il y a un réveil. C'est pas... Pour ça, j'avais, à la fin du cours précédent, je vous avais fait part de soupçons que si les deux dernières gathas semblaient liées à une sorte de dramaturgie, une sorte de mime, le Yasna 51, lorsqu'on évoque les noms propres, semble reproduire l'histoire, le processus de l'apparition de la Daïna aux morts. Hein, et que si le Yasna 53 est le mime d'une union sexuelle entre l'aurore et le soleil, eh bien, ici, je me demande si dans ce Baodento, il ne faut pas voir aussi des traces de dramaturgie, traces de mime, et peut-être le. L'impression très simple, beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins dramatique, évidemment, que la rencontre des âmes du mort ou que l'union sexuelle de l'aurore et du soleil, mais peut-être la représentation très simple de gens qui s'éveillent, de gens qui s'éveillent, hein, à la lumière du feu. Alors, nous allons reprendre cela, nous allons reprendre au début de la semaine prochaine toute la question du feu, parce que c'est un peu délicat, et il faut revenir sur la question du feu, et y chercher d'ailleurs une sorte de confirmation des hypothèses qui peuvent paraître parfois un peu lointaines, mais que nous allons voir se préciser, que je tenais à faire devant vous aujourd'hui, et je vous remercie.